Vous écoutez Radio Grenouille sur le 888 de la bande FM et nous sommes en direct du parc Henri Fabre où se déroule le Festival de Marseille, la 11e édition. On va passer une heure en compagnie de quelques invités que je vous présenterai dans quelques secondes pour parler de ce festival. Alors, sous un angle particulier, alors, il y avait de multiples entrées possibles pour le Festival de Marseille. On sait qu'il est pluridisciplinaire, qu'il cherche à la fois à montrer la création pointue et à la fois à s'ouvrir à un public le plus large possible. Évidemment, on peut parler de chaque spectacle qui est en lui-même une aventure. La musique est également présente de façon très, très importante dans ce festival à chaque édition. Mais on a choisi pour cette discussion et pour cette 11e édition de prendre le fil de la transmission. Parce qu'il se trouve notamment qu'il y a deux présentations de PARTS, P-A-R-T-S, d'une école de Anne de Kersmaeker et de DENTS, qui est une école aussi laboratoire, une initiative qui a vu le jour il y a à peu près un an, dont Frédéric Flamand pourra nous parler en détail dans quelques minutes. Et cette présence, c'est la première fois qu'il y a en fait une présentation de travaux d'école comme ça, alors d'école laboratoire, d'école, ce sont des chorégraphes de haut niveau qui participent à ces formations. Mais bon, c'est la première fois que ça figure dans un festival et ça nous semblait intéressant de partir de là pour explorer cette 11e édition. Mes invités sont donc Apolline Quintran, directrice du Festival de Marseille, 11e édition. Donc Frédéric Flamand, directeur du Ballet National de Marseille, qui sera présente dans cette 11e édition avec Métapolis 2 et qui participe à cette école laboratoire DENT. Michel Kéléménis, qui est danseur, chorégraphe, vous connaissez Studio Kéléménis et que vous entendez régulièrement depuis le début du festival à travers ses chroniques. Catherine Bennett, qui est directrice artistique du Ballet Royal de Flandre, qui a présenté ces deux derniers soirs au Festival de Marseille un programme qui s'appelait Perfect Gems et qui a été longtemps la collaboratrice de William Forsythe pendant une quinzaine d'années, je crois. Et nous sommes également en compagnie de Gilles Roff de Marseille L'Hebdo qui m'accompagne dans l'animation de cette discussion autour de la transmission. Et je signale également que c'est une émission qui se déroule en partenariat avec le Forum Fnac. Alors, Apolline Quintran, si je ne me trompe pas, parce que là j'étais un peu affirmatif, mais il me semble bien que c'était la première année où il y a dans la programmation du festival comme ça des travaux de fin de cycle d'école, on peut appeler ça comme ça, j'imagine. Alors, comment ça se fait? Pourquoi?
Il me semble important de montrer, on a choisi là cette année dans le domaine de la danse, mais on pourrait l'avoir dans les autres disciplines du festival, de montrer le thème de la transmission est important parce qu'il faut montrer d'où viennent les choses. Voilà. Donc dans la pédagogie, vous le disiez, on enseigne aux danseurs actuellement dans ces deux programmes très très riches, et celui de PARTS et celui de DANCE, des méthodes de travail, d'apprentissage de la danse et qui sont certainement différentes de ce qui se passait avant puisqu'il y a une ouverture, on enseigne la composition, on enseigne, Frédéric va pouvoir vous en parler, donc c'est un champ très très large maintenant. On ne formate plus un danseur comme on devait le formater il y a 20 ou 30 ans, ou je ne sais pas, sur un certain type d'enseignement. Ça nous intéressait, puisque le festival est un festival ouvert, pluridisciplinaire. Et ensuite, sur la transmission, il y a, bon, pour les professionnels, il y a les danseurs, mais il y a aussi le public. Et je pense qu'il est important aussi de montrer au public, par rapport à tout le travail que le festival a fait depuis 10 ans sur la danse contemporaine, que la danse contemporaine, eh bien, comme toute chose dans la vie, elle ne vient pas de rien du tout. Elle vient d'une histoire. Et quand on transmet quelque chose, les ruptures, et en tout cas tout ce qui se fait de nouveau, On l'a vu dans le théâtre, on l'a vu dans le cinéma, on le voit dans la musique. Il y a des nouvelles vagues. Les nouvelles vagues, elles emportent des choses, elles en créent d'autres, mais en même temps, il y a des assises, il y a des choses. Ça, c'est important de le montrer au public. Et c'est ce que je voulais faire cette année dans la programmation.
Donc, le festival a une ambition pédagogique affirmée, quoi.
peut-être pas pédagogique, mais en tout cas d'être au plus près. C'est une manière de respecter le public, que d'expliquer ce qu'on fait. Alors à un moment donné, le festival n'avait peut-être pas trop le temps. Il y a 10 ans, il fallait imprimer une marque de fabrique, il fallait dire des choses, donc il y avait peut-être une certaine radicalité. Maintenant, des choses existent, des choses sont posées. Et bien maintenant, oui, on peut peut-être faire un petit retour sur image, et puis surtout, oui, expliquer des choses au public. Et quand je vois la réaction, on va en parler dans cette table ronde, hier et avant-hier, sur ce très beau programme d'explication en fait du programme Forsyth, puisque l'an prochain il y aura plusieurs pièces de William Forsyth, que c'est un chorégraphe majeur actuel, et quand on voit que dans une ville comme Marseille, depuis plus de 30 ans, on n'a quasiment jamais vu de pièces de Forsyth, Catherine a conçu un programme pour expliquer des vocabulaires qui amènent à Forsyth, le public a été assez désorienté.
Oui,
Gilles Roff.
Oui, on a même entendu des petits ricanements au moment de la pièce de Robbins, qui était calée juste au milieu du programme. Je sais que vous en avez été choqué. Alors, pourquoi cette pièce au milieu ?
Pourquoi pas ?
Déjà, je veux dire, bonne réponse.
Moi, j'étais un peu choquée que les gens étaient choqués, hein, parce que c'est un ballet très, très connu et respecté, et c'était bien dansé. Et moi, j'ai voulu montrer la diversité de notre danseur. Alors, c'est ça.
Comment vous l'avez élaboré, ce programme Perfect Gems, en fait ? Comment vous avez choisi les pièces ? Quelle était pour vous l'idée, le fil directeur de ça ?
Alors, je crois comme directeur artistique, il faut prendre les pièces qu'on aime. C'est ça. Et on doit espérer que le public aime aussi. Hein. Mais moi, j'ai pris 3 pièces que je pense sont très, très bien. Et chacun très différent.
Et qui sont liées entre elles, malgré tout. Qui sont liées entre elles, malgré tout. Non, les 3 pièces.
Qui sont liés, il y a une articulation quand même, il y a un vocabulaire différent, mais quand même que l'on retrouve entre David Dawson, qui était un danseur de Forsyth, Robbins, et puis qui n'était pas un danseur de Forsyth. On n'est pas dans la chronologie. Et ensuite, mais en tout cas, Robbins, Balanchine, etc., permettent de comprendre ce qu'a Forsyth. Donc il y avait quand même, Catherine, une cohérence et une articulation entre les 3 pièces.
Oui, parce que Forsyth, il vient de New York. Mm. Et il a travaillé beaucoup avec New York City Ballet, où Robbins a travaillé aussi. Et il aime beaucoup le ballet classique. Hein? Et c'est une chose que les gens ne savent pas quelquefois. Et moi, je pense qu'il y a la danse. Il y a contemporain, classique, tout ça. Mais je ne fais pas une grande division, quoi. Et lui non plus, hein, je crois.
Est-ce que ce sentiment un petit peu de surprise qu'on a ressenti dans le public, il n'est pas un témoignage que vous avez réussi à donner envie d'autres choses? Que c'est vrai qu'il y avait un petit côté désuet quand même dans cette pièce de Robbins, et c'est ça qui a choqué le public, il m'a semblé. Est-ce que c'est pas parce que vous avez réussi à leur donner envie d'autres choses, à ce public marseillais?
Apolline Quintran.
Eh bien, c'est bien la preuve qu'on arrive toujours à les surprendre, quel que soit le champ dans lequel on va. Mais oui, peut-être qu'en 10 ans, le festival a effectivement imprimé cela, une certaine esthétique, une énergie, des choses qu'on avait effectivement jamais vues, ce qui moi me surprenait aussi, parce que dans toutes les villes européennes, et Frédéric Flamand était à Charleroi avant de venir à Marseille, Frédéric peut aussi donner son témoignage, mais c'est la preuve, oui, qu'on les a encore surpris, et moi je suis contente, parce que c'est bien aussi de ne pas enfermer le festival dans quelque chose où branché serait égal, ou contemporain serait égal au mot branché. Donc je crois que, de toute façon, moi j'assume complètement et je revendique, comme lorsque Frédéric a montré un programme Fokine, etc., de dire aux gens. Et ce qui me stupéfie, c'est que cette histoire de la danse dont on parle et dont parle Catherine, Jérôme Robbins, les gens ont un peu ricané, etc., mais effectivement, ils n'ont pas de culture, ils ne savent pas. Jérôme Robbins, c'est le chorégraphe de West Side Story. Catherine le disait, il était au New York City Ballet avec Georges Balanchine. C'est Et c'est pas, ça ne date pas d'il y a 200 ou 300 ans, c'était il y a 30, il y a 40 ans. Alors si déjà, il n'y a pas dans la mémoire des jeunes générations et des gens ce qui s'est passé il y a 30, 40 ans, moi ça me semble, enfin, en tout cas dans une philosophie générale de perte de repères et de manque d'éléments pour le public et pour les gens d'analyser les choses, de les comprendre, oui je trouve que c'est important de le faire. Plus on rend les gens entre guillemets compétents et avec des critères et des repères. Et avoir des repères, ça ne veut pas dire avoir des limites dans ce qu'on fait. Voilà. Donc, mais il est important de donner des repères aux gens.
Michel, quel est le ministre ?
Mon sentiment, quoi, c'est on est pris dans cette question d'une pédagogie du public. C'est pas du tout ça la question. La question, c'est qu'on est dans un espace marseillais où on a été quand même privé de très très grandes aventures de la danse depuis très très longtemps, et le festival a ouvert des portes nouvelles. Et donc il y ait de la part de la direction du festival l'écoute ouverte vers une compagnie qui est complètement en cours de renaissance aujourd'hui, et qui, à travers son répertoire étendu autour du néoclassicisme, arrive à porter des esthétiques comme celle de Forsyth, cette pièce qu'on a vue, qui est extraordinaire, date tout de même de 20 ans. Est-il pensable que Marseille ne l'ait pas vue avant ? Moi, je ne sens pas de pédagogie non plus dans le fait d'amener une pièce de Robbins qui a été très très peu vue. Ce n'est pas le chorégraphe que j'adore, je l'ai déjà dit, on le sait, ce n'est pas la question là. Qu'on ait pu, à travers un programme, explorer la capacité d'un langage classique, néoclassique, à s'exprimer, à exprimer des choses et des choses très très différentes, pour moi c'est important.
Alors, il faut souligner qu'on dit qu'il y a eu un manque cruel de danse à Marseille pendant ces dernières années. Il faut souligner quand même le travail de certaines associations, oui, qui sont battues avec une détermination sans faille, comme Marseille Objectif Danse. C'est vrai que ce n'est pas les mêmes échelles de présentation. Frédéric Flamand, bonsoir. Merci d'être avec nous, parce que je sais que vous créez Métapolis 2, c'est pour bientôt, dans la deuxième édition du festival, et vous êtes impliqué là dans Dance. Je crois d'ailleurs qu'à cette occasion, William Forsyth est à Marseille.
Oui, il est présent dans nos locaux, il est en train de travailler avec les étudiants, préparant les démonstrations de demain. Mais par rapport à tout ce qu'on vient de dire sur la transmission, je crois qu'on pourrait un peu élargir le débat par rapport à la société contemporaine, surtout. Bon, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? On voit une espèce de triomphe du temps présent, tout le temps. Comme dit très bien Virilio, de manière drôle, on n'achète jamais le journal d'hier, mais toujours celui de demain. Et donc, c'est vrai que la notion de la transmission et de la mémoire revient très très fort dans les préoccupations des artistes aujourd'hui et du monde intellectuel, des philosophes et tout. Il y a un philosophe extraordinaire qui a parlé de ça de manière extraordinaire, c'est Peter Sloterdijk. Il explique que nous avons été, les hommes dans toute l'histoire de l'humanité, ont été des messagers qui apportaient, des angeloi, les anges, et qu'aujourd'hui toute cette notion est complètement finie. Nous avons tué les anges en nous, nous sommes devenus des espèces d'anges neutres quelque part. Il y a un livre que je recommande à tout le monde, dont j'ai oublié le nom, mais qui est de Peter Sloterdijk, qui parle de cela. Et effectivement, c'est ce triomphe du temps présent, l'immédiat uniquement. La consommation, l'amusement immédiat. Et cette chose a été préparée pendant tout le XXe siècle, à la fois par des artistes, on peut imaginer les futuristes. Marinetti a dit « Je rêve d'un homme aux racines coupées ». Bon, phrase terrible, nous y sommes presque aujourd'hui, on parlait de la tradition, etc. Nous sommes presque dans une civilisation d'hommes aux racines coupées. Ford, grand industriel, a dit exactement la même chose quand il a dit une phrase terrible aussi, « History is bunk », l'histoire c'est de la blague. Bon, c'est assez incroyable, effectivement, de voir. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis venu travailler en France, parce que c'est un pays qui défend très fort l'exception culturelle, justement. Un pays assez traditionnel aussi, il faut le reconnaître, mais ça a un point de vue extrêmement intéressant aussi. À partir du moment où on se base sur le dépassement du clivage entre, je parle de la danse ici, entre le classique et le contemporain, et de trouver une espèce de nouveau dialogue entre le monde d'aujourd'hui, cette aspiration au renouveau, mais aussi avec une interrogation sur le passé, qui n'est pas nécessairement une photocopie ou une nostalgie du passé, mais qui est un vrai rapport créatif entre tout cela.
Vous pensez qu'on a été piégé par cette succession d'avant-garde là, tout au long du XXe siècle qui fait, à chaque fois faisait table rase de ce qui s'était fait avant ?
Oui, mais on n'en est plus là hein, dans la tabula rasa. Je crois que, effectivement, vous avez vu le programme du Ballet de Marseille, le premier programme qui est sorti s'appelait « Mémoire et innovation ». Donc on est en plein dans le sujet. Et la première phrase que j'ai prononcée quand je suis arrivé à Marseille, c'est une phrase extraordinaire de Valérie qui dit « La vraie tradition n'est pas de recopier ce qui a été fait à d'autres époques, mais de retrouver l'énergie que des grands artistes ont eue à d'autres époques ». Voilà un petit peu la base aussi, la synthèse, la philosophie du Ballet de Marseille, parce que nous sommes à la fois pris dans une compagnie de répertoire, avec du Balanchine et plein d'autres chorégraphes, et des créations extrêmement contemporaines qui s'articulent sur le monde d'aujourd'hui et qui interrogent justement notre modernité.
Et quels sont les liens entre les deux ?
Justement, essayer de dépasser cette espèce de clivage. Apolline en a parlé tout à l'heure. Ne plus, bon, par exemple, danse classique, danse contemporaine. Bon, je crois qu'il faut dépasser la danse contemporaine. Elle a triomphé dans le monde entier aujourd'hui. Voyez, tous les festivals du monde, les trois quarts des festivals dans le monde sont contemporains. Voyez la révolution qui a lieu dans votre pays, en France. Bon, tous les centres chorégraphiques, tous les festivals, que ce soit Avignon, Montpellier, bon, sont presque des festivals de danse contemporaine, presque exclusivement d'ailleurs. C'est aussi une question qu'on peut se poser. Donc il est aussi intéressant d'avoir effectivement ce qu'on a vu en ouverture du Festival de Marseille.
Par exemple, l'an dernier, le festival a invité le NDT, le Netherlands Dance Theater, le 2 et le 3, donc les plus jeunes et les plus anciens de la compagnie. C'est une compagnie qui a un niveau absolument extraordinaire sur le répertoire de Thierry Killian et qu'on n'avait jamais invité à Marseille. Et je pense que, de toute façon, dans l'excellence de la danse, dans la qualité des danseurs, ce que disait aussi Catherine, la danse est là. Donc, c'est aussi former. Michel réfute le terme de pédagogie, mais moi, je crois que quand on n'a pas eu beaucoup de repères, quand on n'a pas vu beaucoup de choses, bah, que ce soit dans un domaine, et là, on dépasse le clivage classique ou contemporain, montrer de très belles choses bien exécutées et qui ont un sens d'où qu'elles viennent, oui, c'est formateur, oui, c'est enrichissant. Et toujours à propos du clivage, par rapport à ce que disait Frédéric, et encore par rapport à la réaction du public d'hier et avant-hier, en tant que directeur ou programmateur, on apprend toujours des choses dans le rapport avec le public. Moi, il y a quelque chose qui me stupéfie. On dit, c'est incroyable, on a sorti du grenier, j'ai lu ça dans la presse, une pièce de Jérôme Robbins. Bon, d'abord, elle ne sort pas du grenier. Et deuxièmement, est-ce qu'il serait, par exemple, envisageable, dans des domaines comme la peinture ou comme la musique, quelqu'un qui aime Pierre Boulez ou qui aime qu'il dise Bach, c'est épouvantable, ça sort du grenier, ou quelqu'un qui aime, Francis Bacon, qui tout d'un coup se met à hurler en voyant l'exposition Cézanne en disant mais c'est quoi ça, qu'est-ce que c'est cette vieille croûte. La transmission et ce qu'ont apporté dans tous ces domaines-là des grands artistes se fait d'une manière quasi naturelle. Alors sur la danse, pourquoi ce clivage aussi violent entre les modernes et les anciens? Est-ce qu'on peut se poser la question, vous qui êtes danseur et chorégraphe, est-ce que c'est parce que le corps intervient? Parce que là, il est question de, il y a quelque chose de physique, il y a des c'est pas des toiles, c'est pas des notes, c'est le corps humain. Est-ce que là, il y a quelque chose comme ça? Comment vous le ressentez?
Michel Calménis.
C'est une très difficile comme question. Ce qu'on peut dire par rapport au programme qui a été présenté par le Ballet de Flandre, c'est qu'il me semblerait très très absurde aujourd'hui d'essayer de qualifier d'un côté néoclassicisme, classicisme ou contemporain un artiste comme William Forsythe. Bien sûr, il a utilisé dans cette période-là un champ de langage qui est issu du classicisme. Son expression au monde aujourd'hui nous parle absolument à tous. Donc il y a un vrai ridicule à cette querelle. Est-elle une querelle très française? Ça, je ne sais pas, parce que je n'ai pas forcément suffisamment arpenté les autres pays pour me renseigner sur la question. Sans doute existe-t-il des pays où le langage classique, dans son ancienneté, disons, si on le regarde d'aujourd'hui, existe encore beaucoup, est encore une référence tout de même. Je pense même que le cheminement de Frédéric aujourd'hui à la direction du ballet tente de, comme je le vois, hein, évidemment ça n'engage que moi, essaie aussi de comprendre comment assimiler ces savoirs des danseurs qui sont différents suivant qu'ils ont travaillé avec lui auparavant ou qu'ils sont des danseurs de l'ancienne direction du ballet, donc plus formés vers le classicisme. Je sais qu'aujourd'hui Frédéric travaille sur comment créer des interfaces, comment intégrer dans son propre travail, dans son propre cheminement, il en parlera, enfin je sais pas, peut-être, hein, toutes ces valeurs, ce sont des valeurs humaines, voilà.
Gilles Roff.
Et justement, peut-être Frédéric Flamand, lorsqu'on prend la tête d'un ballet comme le Ballet National de Marseille, lorsqu'on arrive d'un parcours comme le vôtre, très contemporain, comment on arrive à intégrer les deux choses, comment on arrive à faire danser des danseurs qui ont une formation classique à l'intérieur de vos propres pièces, comment on transmet son propre vocabulaire chorégraphique à des gens qui n'ont peut-être pas forcément cette...
Oui, en ce qui me concerne, peut-être cette notion de transmission d'un vocabulaire ne fonctionne pas, quelque part. J'ai un tout autre point de vue sur la création. Pour moi, le danseur est avant tout un créateur, un artiste. C'est ça que j'essaye de développer le plus possible chez lui. Donc, on n'essaye pas de calquer des gestes sur quelqu'un, on essaye qu'il se révèle. Donc, on travaille énormément en improvisation. Et donc, il se révèle en fonction de sa personnalité et de sa technique. S'il est un danseur classique à l'origine, eh bien, ces choses ressortent, elles ressortiront dans les spectacles. Donc, par exemple, le spectacle que vous allez voir qui s'appelle Métapolis, qui a été créé avec un autre type de danseur en Belgique, qui avait une esthétique beaucoup plus contemporaine, mais qui pouvait aussi être lié à une époque, par exemple, parce que j'ai revu le spectacle qui avait été donné au Festival d'Istanbul il y a 4 ans, et ça m'a semblé tellement loin, tellement un travail au sol beaucoup trop brut, etc. Alors qu'ici, il y a beaucoup plus de filles, par exemple, au ballet de Marseille. Et donc, il y a une légèreté, il y a une verticalité qui n'avait pas du tout... Et je trouve que c'est extrêmement intéressant d'évoluer, de ne jamais figer les choses. Alors, au niveau de la transmission... Bon, moi, je me situe très mal par rapport à ça, puisque je suis dans une mouvance perpétuelle. Un spectacle n'est jamais le même. 6 mois après, il n'est pas le même que quand il a été créé. On a créé ici la Cité Radieuse il y a 1 an et demi. On vient de jouer ça en Israël il y a 15 jours. Ça n'avait plus aucun rapport avec ce qui avait été fait il y a 1 an et demi ici. De nouveaux danseurs sont venus. Donc, les chorégraphies changent en fonction des personnalités. Et on ne colle pas une chorégraphie sur une compagnie. Ça, c'est personnellement, mais c'est un travail très particulier, bien sûr, qui prend énormément de temps, mais qui prend l'interprète plus qu'en considération, qui est une espèce de collaborateur intégré à la création. Donc, en mouvement tout le temps. Et c'est la raison pour laquelle, je crois aussi, ces spectacles peuvent se jouer extrêmement longtemps, puisqu'ils évoluent, ils changent. Donc, ils se revivifient à chaque coup. Et tous mes spectacles, on les a joués pendant 5, 6, 7, 8, 9 et 10 ans. Et ce ne sont jamais les mêmes. Et des gens qui les ont vus 3 ans après m'ont parfois dit « mais c'est un tout autre spectacle ». Et moi, comme l'évolution est lente, nous, on ne s'en rend pas compte parce que c'est au niveau du quotidien que cette évolution a lieu.
Catherine Ménetz, vous rejoignez Frédéric Flamand dans ce sentiment que le danseur est un créateur et qu'on n'a pas à lui imposer ou à lui transmettre un vocabulaire ?
Oui, absolument. Alors, à Ballet Francfort, par exemple, avec William Forsythe, tous les danseurs ont créé aussi les ballets. Hein. Il a écrit dans le programme avec la collaboration de les danseurs. Et ça, c'est toujours vrai. Hein. Aussi, moins dans le ballet classique, c'est vrai, mais les gens aujourd'hui pensent différemment qu'avant. Et je crois que la génération d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus involvée, on peut dire ça, de mettre...
Oui. Et alors justement dans une pièce comme celle de Robbins, quelle est la part de création du danseur ?
Ah oui, mais non, mais chaque interprétation c'est un peu différent. Hein. Si la distribution change, on voit une grande différence. Parce que c'est comme il l'a dit, Frédéric, c'est les artistes. C'est pas seulement les pas qu'il danse, c'est comme il fait les pas et ça change beaucoup hein, chaque fois. J'espère. On veut.
Catherine Bennett, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre, vous, au Ballet Royal de Flandre ? Vous y êtes arrivée il n'y a pas longtemps, en juillet 2005.
Saison, hein, oui.
Première saison.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre à ce ballet ?
Alors, je veux montrer. Je trouve les danseurs chez nous sont vraiment fantastiques. J'ai travaillé avec beaucoup de compagnies du monde. Et quand je suis arrivée là, j'ai remarqué tellement fantastiques sont les danseurs. Et je trouve en Belgique, on ne sait pas ça. Comment on dit, appreciate ça, pas ça. Oui. Et je veux montrer les danseurs au public, c'est ça. Avec beaucoup de ballets différents. Parce que je trouve ça, c'est la plus grande qualité de la compagnie, les danseurs. C'est la cœur de la compagnie.
Quel a été votre parcours? Vous avez eu un parcours académique
Moi, oui, oui. Moi j'ai commencé en Australie, dans le ballet australien national. Et puis, j'étais à Stuttgart, en Allemagne, 10 ans. Et j'étais soliste là. Et puis, j'ai dansé là avec Bill Forsyth ensemble. Et il a créé des ballets là déjà. Il était le chorégraphe pour Stuttgart. Et quand j'ai arrêté de danser, j'étais professeuse en Italie, en Amérique, au Canada, à la National Ballet School. Et Bill m'a invité de retourner comme maître de ballet à Francfort. Et j'ai monté beaucoup les pièces de lui partout du monde. 15 ans. Alors, je connais très bien le monde de ballet.
Alors, Bill, c'est William Forsythe.
Oui.
Comment s'est fait votre rencontre, en fait? On aimerait bien savoir un peu plus, parce qu'on sait que, grâce au Festival de Marseille, que vous êtes quelqu'un d'important pour William Forsythe, mais on ne connaît pas les détails, en fait, de votre rencontre, de votre collaboration, tout ça. Comment vous l'avez rencontré? Comment ça s'est passé?
Bill et moi.
Danseuse,
oui, moi j'étais danseuse, oui, très longtemps.
Mais comment êtes-vous devenue son bras droit? J'ai lu que vous étiez devenue son bras droit.
Sa collaboratrice.
Oui, alors moi j'étais chaque jour à côté de lui. Il a créé les pièces et moi j'ai organisé, on peut dire ça, parce qu'il est très très vite et un peu chaotique quelquefois. Oui, chaotique. Et c'était moi au coin qui a dit fais comme ça, ça. Il a pensé comme ça, non, pas ça. Alors. Oui, c'était une collaboration très proche. Alors, toute la journée, chaque jour, 15 ans, c'est long.
Qu'est-ce qui vous a appris, William Forsythe?
Beaucoup. Hein. Je crois que j'ai une grande chance de travailler avec lui. Et quelquefois, quelques jours, ça me manque. Parce que maintenant, c'est moi qui dois dire c'est comme ça. Et moi, j'étais toujours à côté un génie quoi, qui a eu chaque jour les idées différentes et on n'a jamais su qu'est-ce qui se passe chaque jour. Et ça, c'était incroyable. Pour un artiste, c'est le mieux.
C'est facile à transmettre une chorégraphie de William Forsythe à des danseurs?
Pas toujours, non. Ça dépend de la compagnie. L'année passée, j'ai monté une pièce à le Mariinsky Théâtre, la Kirov Ballet, Saint-Pétersbourg. Et ça, c'était dur parce que personne n'a parlé anglais et on n'a jamais fait quelque chose comme ça. C'était dur, mais...
Une petite panne d'électricité. Je vous rappelle qu'on est en direct du parc Henri Fabre où se déroule la 11e édition du Festival de Marseille, que nous sommes en compagnie d'Apolline Quintran, qui est la directrice du festival, de Frédéric Flamand, qui est... chorégraphe et directeur du Ballet National de Marseille, de Michel Kéléménis, qui est chorégraphe et directeur de sa compagnie du studio Kéléménis, et de Catherine Bennett, avec qui on discutait à l'instant de son travail avec William Forsythe. Et je crois que Gilles Roff voulait lui poser une question.
Non, en fait, je voulais poser une question à Frédéric Flamand, revenir un petit peu sur la structure dance. Que vous avez initié l'an dernier avec William Forsythe, justement, avec Angelin Préjlocage et le chorégraphe MacGregor. Qu'est-ce qui vous a poussé à lancer cette structure?
Essayer de, justement, avoir une espèce d'alternative aux écoles traditionnelles. La plupart des chorégraphes font appel à énormément de choses aujourd'hui, que ce soit la vidéo, les nouvelles technologies, l'image, tout ça. Et les écoles ne préparent pas en fait à ce type de travail. On le voit bien aux danseurs qui viennent aux auditions généralement. Donc on s'est dit que ce serait vraiment intéressant d'avoir une espèce de laboratoire sur 2 ans, tout à fait expérimental, où on dépasse justement les clivages contemporains, classiques, mais où il y a aussi un autre apport de travail sur l'image, sur les nouvelles technologies. Et aussi, ce qui était évidemment extrêmement intéressant, c'est qu'habituellement, les écoles sont dirigées par un chorégraphe qui impose son optique. On en a connu, moi j'en ai connu, qui était extraordinaire d'ailleurs. Hein, Moudra en Belgique, les débuts de Moudra avec Béjart étaient une chose phénoménale qui a influencé d'ailleurs toute une génération de chorégraphes. Hein, des gens comme Magui Marin sont sortis de Moudra, on oublie tout ça. Mais il y avait d'ailleurs une approche très pluridisciplinaire à l'époque, au début de Moudra. Et puis petit à petit, cette école a changé. Elle est devenue l'école de Béjart, qui recrutait pour le ballet du 20e siècle. Et donc, de mon point de vue, cette école est devenue beaucoup moins intéressante, quelque part. Et donc, voilà, il y a aussi le souvenir de ça, quelque part. Donc, quatre approches différentes aussi. Donc, quelque chose d'extrêmement diversifié déjà, dans un dialogue évidemment difficile, puisque même s'il y a des affinités entre Preljokaj, Forsyth, Wayne McGregor et moi, bon, c'est quand même des univers assez différents, il faut bien le reconnaître. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Et donc, c'est un projet tout à fait expérimental qui commence à fonctionner après un an. Et hier, on a eu une première réunion, on a tiré un premier bilan. On voit déjà qu'on va réorienter les choses différemment et tout. Mais c'est un projet européen aussi qui va voyager, où il y a un groupe dans le nord, un groupe dans le sud. C'est aussi une manière d'une nouvelle approche du métier de danseur aussi, puisqu'ils vont participer à certains spectacles, ils vont travailler avec les chorégraphes. Par exemple, les 24 stagiaires vont travailler avec Forsyth bientôt, pendant un mois à Dresden, ce qui est une chose formidable. Bon, d'autres danseurs, dans quelques mois, vont travailler avec des danseurs du Ballet de Marseille sur une chose tout à fait expérimentale aussi. D'autres feront l'inauguration du pavillon noir de Preljokaj à Aix. Donc, ils expérimenteront déjà le métier de danseur, mais face à un public et tout ce qui est aussi extrêmement important.
Est-ce que justement, mettre ces danseurs-là au Festival de Marseille, est-ce que ce n'est pas les mettre en danger aussi face au public ? C'est une chance pour eux ou c'est un risque ?
Ah non, moi je crois que c'est pas du tout les mettre en danger. On les mettrait en danger si on les jetait en pâture sur le grand plateau un soir. Tandis que là, tout est contextualisé. Il y a la présentation des travaux de première année demain dans le studio du ballet. Aujourd'hui, dans ce travail autour de Forsyth, parce qu'ils vont présenter un programme Forsyth, hein, Frédéric. Donc voilà, il y a eu quand même un travail, je dirais pas de pédagogie, Michel aime pas le terme, mais disons de préparation. Il y a là cette pièce de Forsyth hier, In the Middle, qui a été présenté. Il y a demain ce travail autour de Forsyth. Il y a tout à l'heure une conférence de Jill Johnson avec des films vidéo qui expliquent le travail de Forsyth, la technique Forsyth, avec dans une heure. Voilà, donc non, je crois que dans la mesure où c'est contextualisé, c'est extrêmement riche pour le public de voir réagissent les danseurs, les futurs danseurs, les danseurs de demain. Et je crois qu'au contraire, c'est préparer d'une manière parallèle le public à la création de demain. Donc au contraire, ça va rendre, à mon avis, les choses plus faciles. On va faire la même expérience avec les élèves de Parts, de Anne-Thérèse de Kirsmaeker. Il y a déjà eu ce travail au festival, puisqu'on a vu les chorégraphies d'Anne-Thérèse. Maintenant, on va voir sur un marathon de danse et aussi de 8 heures et en même temps un programme, le travail des quatrième année, donc ce qu'ils sont capables de faire au bout de 4 ans en termes de composition, de chorégraphie et d'interprétation. Donc je crois que non, c'est pas du tout les mettre en danger.
Il y a une coïncidence chronologique, là on va donc voir les élèves de dance et les élèves de parts. Est-ce que vous, lorsque vous avez mis en place, Frédéric Flamand, pardon, nous sommes à la radio, oui. Vous, Frédéric Flamand, lorsque vous avez mis en place parts, est-ce que vous vous êtes inspiré justement de l'expérience de parts? Est-ce qu'il y a eu une petite filiation là-dedans?
Bon, il y a évidemment toujours des influences, mais bon, on a parlé de Moudra, on a parlé de Parts, mais on n'a pas parlé plutôt d'expérience dans le passé, justement, puisqu'on parle de transmission. Il y a aussi relancé des expériences extraordinaires qui ont eu lieu dans l'histoire du XXe siècle, au Bauhaus. Moi, je pense très souvent à Oscar Schlemmer, des choses extraordinaires qui ont été faites et qui ont dû être interrompues par la guerre en Allemagne. Et donc, je crois aussi que c'est on parle de transmission aujourd'hui, c'est aussi avoir des rapports aussi avec des artistes d'une autre époque. La création est une chaîne qui peut s'interrompre parfois et qui reprend à d'autres moments de manière tout à fait inattendue, dans d'autres pays. Et je crois que c'est une chose très belle aussi. Donc ça, c'est la pérennité du monde artistique. Bon, je voyais par exemple, Apolline m'avait offert un livre sur Tel Aviv que je ne connaissais pas du tout et que j'ai découvert il y a 15 jours, comme je vous le disais. Et on voit toute une partie de la ville qui est la ville blanche, et ce sont les architectes du Bauhaus qui ont dû fuir l'Allemagne et qui ont construit cette chose extraordinaire qu'on trouve là à Tel Aviv. Voilà aussi de nouveau un lien artistique dans l'histoire à travers le temps. Et c'est une chose, je crois, extrêmement importante, puisque par rapport à la transmission, par rapport à la notion de mémoire dont on parlait, je crois que c'est très important qu'on éduquer, bon, je crois que c'est un terme un peu, mais qu'il y ait une ouverture d'esprit en tout cas, et qu'on puisse avoir une émotion devant un tableau dans une église à Venise et dans un musée au Guggenheim à New York devant la chose la plus contemporaine, et que c'est peut-être la même émotion. Ça, je crois que c'est une chose qui pourrait peut-être une ouverture pour tout le monde, même pour nous d'ailleurs.
Moi, je trouve que c'est important ce que dit Frédéric là, sur la transmission, sur la mémoire, sur le, la transmission, c'est tout sauf quelque chose qui serait dans la répétition ou dans la photocopie d'une émotion, d'une époque, etc. Parce que ça serait nier la création, ça serait nier dans chaque individu sa potentialité de faire sa propre histoire. Mais donc tout à l'heure, oui, sur la notion de transmission, dire que c'est d'une grande richesse la transmission, que c'est pas quelque chose qui va étouffer, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de notion de repère et que je disais il faut avoir le repère, mais pour autant il n'y a pas de limitation après à la nouveauté, à la création, au renouveau de vie, voilà.
Et dans Dent, les jeunes chorégraphes qui sont là-dedans sont demandeurs de ça, Frédéric Flamand. Vous sentez qu'il y a
eu... Oui, je crois que c'est justement pour ça qu'ils sont venus se présenter aussi. Hein. Il y a eu énormément d'auditions. Je crois qu'il y a eu 900 élèves, élèves entre guillemets. Non, ce sont des artistes plutôt, je crois aussi. Hein, ce ne sont pas des élèves, parce que ce sont des gens déjà qui ont énormément de techniques, qui ont fait des écoles et tout, et justement qui ont été attirés par ce programme expérimental. Et je crois qu'ils en demandent d'ailleurs beaucoup plus que ce qu'on aura pu leur offrir. Il y a eu toute une discussion hier, ils sont en demande et c'est extraordinaire. On sent aussi une nouvelle génération de jeunes artistes. Et ça, c'est dans les démonstrations qu'on a pu voir à Aix il n'y a pas longtemps. On sent cette chose très belle. Une nouvelle génération est en train de naître. Et justement, on parlait de transmission et de chaîne. Et voilà, on voit cette énergie qui est autre, qui est différente, avec les musiques qu'ils aiment. Mais finalement, c'est la même chose, quelque part. Et c'est ça qui est très beau. Donc, qu'est-ce qu'on peut leur apporter? C'est cette espèce d'ouverture d'esprit et de devenir des artistes accomplis.
Et au bout d'une année de fonctionnement, quel est votre regard sur ce qui s'est passé dans Dance? Vous êtes plutôt surpris
Non, un regard critique. Bon, hier, on en a beaucoup parlé. En tous les cas, on en a parlé avec eux aussi. Le fait qu'il y a eu une espèce il y a eu beaucoup de cours, des gens venaient une semaine, deux semaines, il y avait des cours de religion, quatre jours, des choses qui, avec un peu de recul, nous paraissaient assez... comme si on retournait un peu à une école conventionnelle. Et moi, j'ai vraiment insisté très, très fort là-dessus, sur l'intégration de tout ça, que s'il y a une approche de différentes choses, que ça doit être en fonction d'un projet, je crois. Et donc, l'année prochaine, on va agir très différemment. Comme je vous l'ai dit, ils vont travailler sur des grands projets. Bon, par exemple, je ne sais pas, un mois avec Forsyth, deux mois avec nous, un mois avec Preljokaj, deux mois avec Wayne McGregor. Et donc, je crois que c'est très important qu'il y ait toute une recherche autour de ce projet. Donc, une thématique et du sens. Donner du sens à cette chose et pas une suite de cours qui se succèdent. Je crois que c'est ça qui est le plus important.
Alors, Michel Kelemenis, on a parlé beaucoup de transmission dans l'institution, en fait. Même si ce sont des projets novateurs, ça reste quand même fortement lié à l'institution. Comment cette question est abordée dans une compagnie indépendante? Et est-ce que vous, en tant que danseur et chorégraphe, déjà commencé par ça, est-ce que vous avez eu, à un moment donné, le besoin de vous inscrire dans une filiation?
La filiation, non, le besoin de m'y inscrire absolument pas. Il ne m'appartient pas même de la désigner ou quoi que ce soit. On sait globalement d'où je viens, là où quels repères sont les miens. On n'a pas simplement communiqué dessus. Je peux les rappeler. Dominique Bagoué pendant 4 ans. Ma projection de jeune danseur à travers l'image que j'ai poursuivie quand j'étais petit et que je commençais à danser n'était pas celle d'un prince ou d'une princesse. C'était Nijinsky, et plutôt dans ces images de modernité que dans celle où il était danseur classique. Et voilà, mais ma construction est là. D'un côté, il y a un maître, de l'autre côté, un dieu. Et entre ça et ça, j'ai fait mon chemin.
Après, oui, quel héritage.
Bon, c'est pas un héritage. Peut-être un peu d'héritage du côté Dominique, puisque je l'ai effectivement.
En tout cas, Michel Calimeni sait d'où il vient.
Voilà, mais une fois qu'on a dit ça, il ne m'appartient pas après de dire filiation quoi que ce soit. Si quelqu'un veut l'établir, en parler, bien etc., sûr. Vous êtes bienvenu, il n'y a pas de problème. Bon, on peut même lire autrement. Mais par rapport à la transmission, moi je n'ai pas un rapport au terme même de transmission, un rapport qui soit théorique. Ce n'est pas du tout un espace théorique pour moi. C'est un espace actif de vie et de partage effectif à une multitude de niveaux. On ne peut pas penser aujourd'hui sans hier, on ne peut pas penser aujourd'hui sans une projection vers demain. Donc il y a déjà à travers le temps cette nécessité-là. Après, dans le rapport avec les danseurs, ça mêlera évidemment de la sollicitation, de la révélation, Frédéric le disait, de la pédagogie, Apolline a en parlé, tout ceci est mêlé en permanence et je le ressens moi comme un espace très très appartenant, enfin c'est pas un espace appartenant aux danseurs, mais c'est très très inclus dans notre pratique quotidienne. C'est voilà.
Un espace inhérent à la danse.
Absolument. Ouais. Oui, inhérent à la danse, mais pas uniquement à la danse. Je suppose qu'il y a beaucoup d'autres domaines où cette dimension-là est en action aussi.
Et est-ce que la notion de transmission hante à ce point le monde de la danse, ce n'est pas aussi parce que la durée de la carrière d'un danseur est si courte finalement et qu'à un moment, il faut transmettre?
Je me pose pas du tout la question de cette façon-là, mais pas du tout. Il y a la nécessité pour permettre la révélation d'un artiste en scène à travers un langage qui lui appartient, qui m'appartient, qui nous appartient tant à l'un qu'à l'autre et qui fait qu'on a trouvé un point de brillance dans lequel on se reconnaît l'un et l'autre. Pour atteindre ça, il faut savoir dire les choses de milliards de façons. Il faut savoir parler du petit orteil au moment où je pose le pied, comme de l'idée qui a été motrice il y a déjà 10 ans de cette sollicitation-là. Voilà. Et il faut pouvoir le dire d'autant de fois différentes que d'individus en face de qui on se trouve, pour peut-être aboutir à une même image sur l'un, sur l'autre. Voilà. Et donc, après, il y a un fait de la danse qui est un fait de jeunisme, effectivement, qui fait que les générations passent vite, s'effacent vite. Il y a un fait qui est l'énergie d'une jeunesse a aussi besoin est aussi une énergie d'initiative. Et donc, il y a de très, très nombreuses paroles qui se sont développées après l'explosion vraiment de la danse contemporaine en France dans les années 80. Une explosion de paroles qui fait qu'aujourd'hui, il est effectivement très, très nécessaire de parler la transmission, le répertoire, un répertoire très récent qui disparaît lorsque les compagnies, puisque un créateur, une compagnie dans ce domaine-là, lorsque les compagnies ne sont plus en mesure de porter leur répertoire. Nous sommes tenus d'aller vers un geste de création, celui-ci souvent efface le répertoire. Donc c'est cette idée d'une transmission de choses qui ont été essentielles il n'y a ne serait-ce que 10, 15, 20 ans est une question que l'on se pose beaucoup.
Apolline Quintran ?
Non.
Ah pardon, j'ai vu saisir le micro.
En fait, on parle beaucoup de, même nous, se mettre d'accord sur ce qu'on entend par transmission. Il peut, l'écho du mot transmission, selon sa sensibilité, selon son parcours, peut avoir... Moi, je l'entends, non pas, je l'ai dit tout à l'heure, non pas comme quelque chose qu'on va... Mais voilà, comme quelque chose dont on se nourrit. Il y a des influences, il y a des... La transmission, c'est aussi savoir d'où on vient, c'est savoir un certain nombre de choses par rapport à soi, par rapport à son histoire, par rapport à l'histoire du monde aussi. Donc mais à chaque fois, et je le redis donc pour la troisième fois, en aucun cas, et on le voit dans le discours de Michel, la transmission ne doit empêcher un individu de créer sa propre histoire. Je crois que c'est déterminant. Ah oui, en même temps. Oui, voilà, je sais à quoi vous allez en venir. Presque. Si.
Allez-y, dites-moi, je suis curieux.
Emmanuel Gatt, le Requiem, la prochaine création du festival. Voilà. Et comment, justement, là, par rapport au répertoire, par rapport à la transmission, c'est pas ça ?
la surprise.
Non, je pensais juste annoncer que et on serait avec Emmanuel Gatt le mardi 27 à 18h en direct du Festival de Marseille où on est actuellement. Mais non, mais je voulais reposer la question à Michel Kéléménis parce que la transmission, c'est quelque chose qui a été l'objet d'une chorégraphie de Michel Kéléménis avec Christian Hubel qui s'appelait Cadenza.
Oui. Il y a dans le temps de répétition des instants absolument magiques. Donc bien sûr, il y a l'objet après lequel on court et qui fédère une énergie de compagnie, etc. Donc, l'objet dont je parle, c'est le spectacle, enfin la prochaine création. Et il y a tout le temps qu'on passe. Donc la vie du danseur, c'est quand même essentiellement 95% de temps passé à répéter. Que veut dire que recouvre ce mot de répétition ? Et il recouvre des instants absolument magiques. Et donc j'ai eu le souhait, à partir d'un solo, dans ma phase de danseur narcissique est passée depuis très longtemps. Or, j'adore danser. Et je me pose la question de qu'est-ce que je vais faire en scène, puisque qu'est-ce que je vais apporter là. Et ma question pour danser encore très récemment était de me créer un espace de joute avec une écriture musicale qui était pour moi très très complexe à comprendre. Musique de Philippe Fénelon. Ceci a abouti à un solo de 25 minutes, Cadenza, et dans lequel je m'amuse beaucoup. C'est une espèce de joute permanente où je réinterroge la note. Il y a beaucoup beaucoup de notes chez Fénelon. Et cette pièce, une fois que moi je l'ai réalisé, je lui ai trouvé beaucoup d'intérêt, mais je n'ai pas trouvé d'intérêt supplémentaire à la danser moi-même. Et donc, j'ai choisi de la transmettre à un danseur extraordinaire qui me semblait absolument à même de s'en saisir et de la réinventer. Donc, Christian Hubel, comme vous le disiez. Et dans le temps de cette transmission, donc, où effectivement, la danse, elle est écrite, elle a beaucoup de possibilités, comme toutes les danses, d'être interprétées très, très différemment, vécu différemment et enrichi, qui se termine cependant par une improvisation aussi, qui est une façon de se séparer de cette dimension d'écriture. Et j'ai observé, en travaillant avec Christian, j'ai observé ce qu'il se passait entre nous de glissement, de porosité, d'attention, de fonte un peu de l'un dans l'autre. Et cette observation m'a amené à composer une première partie de la pièce. La pièce peut vivre, le solo peut vivre par lui-même, mais une première partie qui met en scène ce qui me semblait absolument digne d'exister en scène de ce temps de répétition observé.
Mais tu as transmis quelque chose. C'est important. Enfin, tu as transféré Narcisse, alors.
Non, mais Narcisse, était je ne sais pas. Non, je ne sais pas. En revanche, la pièce aboutit à un moment où est partagé cette intimité de la transmission. Donc, évidemment, j'ai essayé d'amener... par exemple, ce qui m'est apparu, c'est que j'ai compris là que beaucoup de choses que j'exploitais moi-même comme danseur, je ne les avais jamais sollicitées chez les danseurs avec lesquels j'avais travaillé. Donc ça m'a ouvert une petite fenêtre nouvelle d'exploration pour la suite. Et évidemment, on peut imaginer Christian Hubel dans ce Cadenza d'une façon à des milliards de kilomètres de la mienne. Et je ne crois pas qu'on puisse les comparer.
Il y a une notion peut-être aussi d'abandon dans cette transmission. Une fois que c'est transmis, c'est plus à vous et à partir de là, ça vit de façon autonome.
Oh,
il faut accepter ça. Il faut accepter ça aussi.
La question du renoncement chez le danseur arrive très très vite. Hein. Il faut se séparer de soi. On commence à songer à son propre vieillissement, éloignement, et qui est une certaine façon d'aborder très tôt une dimension de sagesse, sans doute. Ce renoncement, il faut l'accepter très très tôt et accepter très très vite que la danse en soi change, que les enjeux deviennent différents à travers les années. Et donc après la séparation, enfin, je me suis séparé de rien. J'ai adoré travailler avec un danseur magnifique et le voir se révéler à travers une pièce que moi-même j'ai adoré danser. Et il faut ne jamais oublier ne jamais perdre ça.
En travaillant sur ce plateau, j'ai entendu une belle histoire de transmission justement d'un solo de Susan Burge qui a transmis un solo à Bernardo Monte qui s'appelle Danse Nord en fait. Et elle disait que dans ce geste-là, Bernardo Monte devenait responsable de ce solo. Et lui-même vient de le transmettre là à un danseur qui s'appelle Taoufik Izediou et qui est devenu lui-même responsable de ce solo Danse Nord et chargé de le transmettre. C'est la mission.
Je voudrais moi apporter juste un petit éclaircissement sur ce que nous disait Frédéric Flamand il y a quelques instants de Dance. Et il y a là un élément qui est transmis dans ce que j'ai pu observer du travail de ces jeunes danseurs. Il y a un élément qui me semble essentiel, indispensable, et qui d'une certaine façon est apporté et garanti par le chapeau de ces quatre chorégraphes, c'est le plaisir d'un corps, d'une exploration, des possibilités d'un corps qui s'anime sans économie. Et lorsque je le dis ici, c'est qu'on sait que la scène française de la danse aujourd'hui oppose une dimension conceptuelle et une dimension qui sera dansée, de corps animé, on va dire. Et je crois qu'il faut absolument et rapidement effectuer le mariage entre les deux. Enfin, effectuer une forme de noce, en tout cas ramener l'émotion absolument particulière du corps animé dans l'espace sur les scènes de France et d'ailleurs. Et je crois que Dance transmet ce plaisir aux jeunes danseurs. Je les ai vus et ça m'a rempli de joie parce que ce sont bientôt 24 jeunes interprètes qui eux-mêmes vont avoir des gestes de création, seront eux-mêmes chorégraphes et qui vont se promener à travers l'espace avec ce plaisir-là. C'est indispensable.
Alors justement, comment ça va se passer pour eux à la fin du cycle de Dance? Vous avez imaginé cette insertion?
Écoutez, on ne sait pas, ça dépend un peu des envies de tout un chacun. Certains entreront peut-être dans des compagnies, dans une des quatre, et peut-être pas.
Au Ballet National de Marseille, peut-être ?
Pourquoi pas, peut-être, j'espère d'ailleurs.
Au moins.
Mais enfin, bon,
c'est
pas une obsession.
C'est un vivier pour vous ?
Oui, c'est pas une obsession de préparer. Bon, je trouve que ce serait un peu mesquin et un peu limité comme projet de préparer des gens qui seraient une relève pour la compagnie. Bon, le monde de la danse est tellement vaste, bon, j'espère qu'ils, de toute façon, il y en a qui ont énormément de talent, et ils trouveront eux d'eux-mêmes, je crois. Et puis, les deux années ne sont pas terminées, donc nous verrons les nouvelles affinités avec les uns et les autres. Mais c'est pas je crois que ce qui est important, c'est le processus, oui. Plus que le but final, un diplôme ou un engagement. Non, c'est mettre un processus et qu'ils acceptent la beauté de ce processus qu'est la création et qu'ils y trouvent un vrai plaisir en plus, mais je crois que c'est ce qui est en train de se passer.
Vous leur imposez un véritable nomadisme, c'est entre Bruxelles, entre Aix, on va à Dresde, on revient. Ça, c'est un souhait vraiment fort, il faut bouger, il faut changer de lieu, il faut rencontrer des gens différents.
C'est bien, c'est l'Europe. Je crois que c'est extrêmement important de voir que ce qui se passe ici n'est pas la même chose 500 km plus loin. Ça ouvre l'esprit. Vous savez, moi, j'amène ici à Marseille énormément. Je vois la technique du ballet de Marseille telle qu'elle était il y a un an et demi. Eh bien, je me suis dit qu'il fallait absolument amener des techniques anglo-saxonnes qui n'étaient pas venues ici depuis des années. On le sentait très bien. Des gens qui avaient travaillé avec Forsyth, des gens qui ont travaillé avec Trisha Bourne, tout ça. Tous ces gens-là, des professeurs qui viennent et qui amènent un changement, de nouvelles informations, c'est extrêmement important. Et comme les voyages pour une compagnie sont extrêmement importants, parce que le corps n'est pas le même ici ou au Brésil, et donc la perception
corps,
de l'espace. Et donc je crois que c'est très enrichissant pour une compagnie de voyager énormément. Moi je me souviens la première fois que j'étais au Brésil, 6 mois, venant du nord, la Belgique, vous imaginez, restant 6 mois au Brésil, mais vous ramassez ça comme une claque dans la gueule. Bon, c'est un autre monde et c'est extraordinaire au niveau de la création, par exemple.
Alors, en parlant de voyage et de départ, je viens de savoir que Catherine Bennett va nous quitter bientôt, mais le Ballet Royal de Flandre va bientôt à Montpellier, je crois, non? Vous pouvez nous dire
la semaine prochaine, oui.
Pour
oui.
Perfect Gems aussi
Non, c'est Impressing the Tsar, from William Forsyth.
En fait, Catherine, elle va vous raconter l'histoire,
oui.
C'est que Impressing the Tsar était prévu pour Marseille, et aucune scène ne pouvait accueillir le format de Impressing the Tsar, qui
c'est
est vraiment
quoi,
une pièce très impressionnante.
50 danseurs.
Très, très, très grande, ouais. Oui. Et donc, la composition de Impressing the Tsar a cette particularité, c'est que In the Middle, comme son nom l'indique, est In the Middle de Impressing the Tsar. Donc, nous avons extrait In the Middle pour le présenter à Marseille, puisqu'il était effectivement dans ce format. Puis là, par rapport à Forsyth, puisque nous commençons un travail autour de William Forsyth, et l'an prochain, matin, on parlait là de Dresde, où travaillent les élèves de dance. Et c'est aussi un autre assistant de William Forsythe, Aaron Watkin, que connaît très, très, très bien Catherine, qui reprend la direction du ballet de Dresde. Et l'année prochaine, au festival, on pourra voir trois pièces très importante de William Forsythe, interprétée par le ballet de Dresde. Voilà, donc c'est ce travail autour de Forsythe qui, cette année, a commencé à éclore au sein du festival. Voilà.
Alors, si vous le voulez bien, il nous reste quelques minutes. Je voulais terminer par une dernière dimension de cette notion de transmission. Là, on parlait du plaisir de la danse à transmettre aux danseurs. Il y a le plaisir de la danse à transmettre aussi à un public. On commençait par ça en début d'émission. Peut-être, une question qui s'adresse à tous, mais Michel Kéléménis, vous êtes chorégraphe depuis 20 ans à Marseille. Comment êtes-vous arrivé ou pas à transmettre quelque chose de la danse, à inscrire un plaisir de la danse dans ce territoire marseillais ? Difficile de répondre.
Oui, c'est une question. Quelle est ma mission et quel est mon résultat ? C'est super difficile. Hein.
En même temps, difficile que ça, parce que le public fréquente le studio Kéléménis.
Oui, voilà.
À multiples occasions.
Oui. L'histoire, effectivement, mon choix d'avoir installé la compagnie à Marseille il y a bientôt 20 ans fait que, après quelques années, j'ai obtenu la direction d'un lieu, d'un espace dans lequel il y a un espace partagé où on pratique ce terme barbare de mutualisation des moyens et des forces. Donc ça veut dire que c'est un espace partagé, de nombreux artistes et compagnies viennent y répéter, et ceci depuis l'ouverture du studio en 99 en collaboration étroite avec de nombreux partenaires dans la ville, dont le Festival de Marseille. Et ça c'est une chose qui, en permettant de rassembler les différents niveaux d'activité de la vie artistique de la compagnie, les différents niveaux sont tant la pédagogie, l'enseignement, le travail des amateurs, les enfants, toute forme de sensibilisation, évidemment le travail de la création qui, dans notre projet, est absolument placé au cœur de toutes les ouvertures que l'on peut faire, tant vers des professionnels, des amateurs ou le public au sens plus large. Et ça, c'est une profondeur effectivement qu'a acquise la compagnie. Alors, je ne sais pas si j'ai donné beaucoup à Marseille, je ne suis pas malheureux que cet endroit profite à de très très nombreux danseurs. J'étais heureux hier de voir les 24 jeunes danseurs de dance venir faire une petite répétition d'appoint avant de partir à Toulon ces prochains jours.
Et c'est de tout ce travail que vient question de danse, question d'artiste.
Oui, c'est peut-être un vilain mot à prononcer, mutualisation des moyens, une belle expérience à vivre, je peux vous le dire, puisqu'on le voit ici dans le parc avec le Ballet National. Tous les danseurs, vous avez vu le plateau, 50 degrés sur le plateau, Emmanuel Gatt, Catherine, tous les danseurs que nous accueillons travaillent, répètent dans les studios du BNM. Tout à l'heure, il va y avoir la conférence. Enfin, nous partageons beaucoup de choses. Le début du festival s'est passé au Théâtre de la Criée pour une chose très très belle sur le théâtre et la musique. Donc cette mutualisation de moyens, moi je trouve ça formidable parce que, in fine, c'est le public qui est gagnant, et ce sont aussi les artistes. Donc voilà, oui, vive le vilain mot, Michel.
Non, mais le partage, les synergies, les collaborations, c'est ça qui
nous
fait lui.
Il nous reste tout juste une minute et ça va être fatal parce que c'est le décrochage avec les informations de Radio France Internationale. C'est un satellite qui coupe tout, donc c'est assez sévère à chaque fois. Peut-être juste pour finir, Frédéric Flamand, quelles seraient vos stratégies pour transmettre le plaisir de la danse à ce public marseillais ?
Pas tellement de stratégie, non, c'est plutôt une notion d'ouverture. Je crois que c'est la chose la plus importante, c'est ce que j'essaie d'amener. Dès que je suis arrivé ici, déjà ouvrir le bâtiment au public, il était peu, créer une salle de spectacle, des synergies avec le Festival de Marseille. Je crois que cette notion de partage, finalement, c'est bien pour le public aussi. Je crois qu'ils le sentent, vous sentez bien, il y a une notion de fête aussi autour de ce partage. Et ça, c'est extrêmement important et c'est une des qualités du Festival de Marseille.
Très bien, merci beaucoup. Il reste 5 secondes, 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. Au revoir.